J'espère que vous allez bien. Bon, ce matin, je vais vous secouer un peu. Ouais, accrochez-vous parce que vous allez voir, le Seigneur m'a parlé cette semaine sur plusieurs points et c'était un petit peu difficile de réunir tout ça. J'aimerais qu'on commence par quelque chose que peut-être vous n'avez jamais fait avant une prédication. Je vais laisser les enfants partir. Et là, je vous demande d'être honnête. Vraiment, dans votre cœur, d'être véritablement honnête. Parce que vous allez entendre le verset que je vais vous lire après, vous allez très vite comprendre. J'aimerais que vous puissiez, dans votre tête, vous dépeindre tel que vous êtes au quotidien. Tel que vous êtes au quotidien. Vos travers, parce que c'est facile. On peut donner une image dans une église, une image de quelqu'un de bien. Moi, ce matin, je présente bien, mais peut-être que chez moi, quand vous me voyez, c'est totalement l'inverse. Donc j'aimerais que ce matin, on puisse, et vous allez comprendre parce que ça colle parfaitement à la prédication. J'aimerais qu'on réfléchisse, et je donnerai le top quand il faudra s'arrêter, comment vous êtes au quotidien. Vous savez qu'il faut faire souvent ça avec le Seigneur. De dire au Seigneur, bah écoute, j'ai pas été bon là-dedans. Faites-le maintenant. Pensez, vous baissez la tête, prenez le temps. Voilà, je pense que vous n'êtes pas trop chargé, donc ça va aller. Ésaïe chapitre 1, versets 15 à 18. Attention, c'est du lourd. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Recherchez la justice, protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin, défendez la veuve, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Là, il parle à son peuple. Et il vous parle peut-être ce matin. Moi, il m'a parlé, quand j'ai lu ce verset, ça m'a parlé. Et ça m'a poussé à être honnête devant le Seigneur. De me mettre devant lui et de dire bah, il y a telle chose qui ne va pas, il y a telle chose qui ne va pas. Et ça fait du bien ici. On sait que Jésus revient bientôt. Je ne vais pas mettre le point d'accroche sur. D'un côté, vous avez les séismes énormes, de l'autre côté, vous avez les inondations, alors que chez nous, ça brûle. Les gens vont dire oui, c'est la fin des temps. Je vous rappelle que le point principal de la fin des temps, c'est l'apostasie. C'est-à-dire que ben, vous allez venir dans l'église parce que c'est dimanche. Tout simplement. Même pas préparé au culte. On vient parce que c'est dimanche. Et puis ben, on va chanter parce qu'on nous demande de chanter. On va écouter la parole de Dieu parce qu'on... Voilà, c'est la prédication. Je vous ai dit que ça allait être lourd. Mais... Je veux simplement vous amener à réfléchir. Parce qu'on vit dans un monde où on a effacé la pensée de Dieu. Vous avez des gens qui se marient, ou devrais-je dire, ne se marient plus, vivent à la colle, vivent paxés, on fait des enfants sans être mariés, on divorce, j'écoutais ce matin, maintenant on en est à 1 sur 2 des divorces pratiquement. C'est incroyable, hein. Quand on sait que le mariage est un engagement, les gens s'engagent, mais pas longtemps. Vous savez, c'est comme un appareil ménager, vous avez une garantie, vous pouvez acheter une garantie, mais 5 ans, pas plus. Hein. Après, c'est... En fin de compte, vous avez les gens comme du temps de Noé qui font la fête, sans s'imaginer que dans le ciel est en train de se préparer un événement qui est grave et qui va sceller, en fin de compte, leur éternité. Et notre éternité. Nous concernant, lorsque Christ va revenir, il va le rechercher son épouse. Et là, je vais être dur, pas une prostituée. Ah, vous allez me dire, mais pourquoi il dit ça? Si vous allez dans Apocalypse, vous allez voir ce qu'il dit à Thyatire, l'église de Thyatire. Et ça, c'est un avertissement. C'est un avertissement. Apocalypse, chapitre 2, verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Ici, c'est une église où il y avait quelqu'un qui enseignait une autre doctrine. Ah, vous allez me dire, mais il n'y a pas ça ici. Mais il y a plein d'églises où on enseigne une autre doctrine. D'ailleurs, si vous suivez les 124 000 prédications de Michael, vous devez savoir qu'il y a la prospérité qui vient et qui emmène les gens sur un autre chemin que le chemin, la vérité et la vie. Alors, en fin de compte, dans cette église, il y avait une femme qui se disait prophétesse et qui enseignait aux croyants de prendre part à la débauche, de toutes les manières que ce soit, et notamment de prendre des viandes sacrifiées aux idoles. C'était incontestablement diabolique. L'église était corrompue. Pourtant, c'était une église qui avait été fondée par Paul. Jézabel a le même comportement que Jézabel, la femme d'Akab. En 1 Roi, chapitre 16, versets 31-33. Et comme si c'eût été pour lui peu de chose de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens. Et de ce fait, qu'est-ce qu'il a fait Jéroboam? Il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc il a été poussé par son épouse à faire des choses encore pires que les rois avant lui. La finalité, c'est que Jésus a promis un jugement soudain et immédiat. Il appela le péché de Thyatire adultère. Et il a affirmé que tous ceux qui suivraient l'enseignement de Jézabel subiraient une grande tribulation. Il promit également « Je frapperai de mort ses enfants », ce qui signifie en fin de compte que la tribulation allait toucher ses disciples, tous ceux qui allaient suivre Jézabel. En fin de compte, le jugement serait si terrible que toutes les églises sauraient que Christ est celui qui sonde les reins et les cœurs. Ce sont les versets qui suivent dans Apocalypse. Ce n'est pas moi qui l'invente, ce sont les versets qui suivent l'explication. Si on regarde avec honnêteté nos églises d'aujourd'hui, est-ce qu'elles n'ont pas été envahies par les soucis de la vie, par les doctrines magnifique, que l'homme a produit, et certainement pas Dieu, où on entend tout, sauf Jésus-Christ. Vous savez que j'ai déjà entendu des prédications où on parlait de tout, mais à aucun moment Jésus-Christ n'a été cité dans la prédication. Et ça, il faut faire extrêmement attention. Et dans nos églises, on a malheureusement des gens qui prêchent tout sauf Jésus-Christ. Et on est alerté, si vous écoutez bien, j'ai plus de nom en tête, des gens qui alertent depuis très longtemps, Wilkinson, qui nous avertissait que petit à petit, Jésus-Christ ne sera même plus dans nos églises. D'ailleurs, Jésus-Christ a dit « Quand je reviendrai sur terre, trouverai-je encore la foi ?» C'est un fléau. C'est un fléau. Donc il y a les doctrines perfides du monde et surtout la religiosité. Vous vous rappelez la petite question que je vous avais posée tout à l'heure? Pourquoi je suis venu ce matin? Moi, je suis venu parce que je devais prêcher. Sinon, je serais allé à la pêche. Mais oui, mais est-ce que à certains moments, c'est pas comme ça? Est-ce qu'on n'a pas l'envie d'être ailleurs? Est-ce qu'on est sincère ce matin? Dans le sens, quelle est la soif qui m'anime de venir ici? Est-ce que j'ai une soif de venir ici ou c'est dimanche matin, tout simplement? En fait, quand je veux vous amener à penser qu'il est impératif qu'on se purifie et qu'on se sanctifie chacun pour échapper à tout ce que le monde produit et nous éclabousse. Et en fin de compte, à remettre, c'est-à-dire l'Église au centre du village, on va dire le terme comme on dit couramment, nous remettre devant Dieu. Nous remettre. Vous allez voir tout à l'heure, je vais dire des choses qui sont terribles et j'espère que personne n'est ici dedans. Dans le passage aujourd'hui qui nous occupe, les nombreuses prières, en fin de compte, demeurent inefficaces. C'est comme si Dieu disait au peuple d'Israël, c'est pas la peine de vous mettre à prier, façon de toute manière, je n'écoute absolument pas. Vous avez beau lever les mains, vous avez beau pleurer, je n'écoute absolument pas parce que vous êtes coupable et que vous refusez de venir devant moi. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Vous savez, on pense, quand on lit ces versets, vos mains sont pleines de sang, j'ai jamais tué. Mais si tu dis raca à ton frère, tu comprends ce que je suis en train de te dire? Si tu refuses l'amour à ton frère, si tu refuses le pardon à ton frère, tes mains sont pleines de sang ce matin. En fait, compte, quand on emploie ici l'expression, quand la Bible emploie l'expression « étendez vos mains », ça veut dire que le peuple cherchait de l'aide. Il cherchait de l'aide devant l'Éternel. Mais il était loin d'en trouver, malheureusement pour lui. Parce que Dieu les savait accusés. Et on sait que Salomon en fait le même. Quand il s'est placé devant le peuple, il a levé les mains devant toute l'assemblée et les a tendues vers le ciel. Il a prié l'Éternel et lui a reçu une réponse parce qu'il était droit devant l'Éternel. Mais ici, leurs mains sont pleines de sang et Dieu appelle quoi? Venez, revenez à moi et je vous purifierai. Ils vont être lavés, ils vont être purifiés. En fin de compte, cet état d'impureté rend les rites de Judas complètement ridicules. Complètement ridicules. Ça ne servait à rien que Judas se mette devant Dieu et commence à prier, commence à chanter. Dieu disait, je ne vous écoute pas. Tant que vous êtes dans cet état, je ne vous écoute pas. En fin de compte, pour que ça ait une valeur aux yeux de Dieu, il faut que ce que nous sommes à l'intérieur, c'est-à-dire en quelques mots, le rite intérieur, doit s'accompagner, le rite extérieur, pardon, ce que nous faisons quand nous chantons, quand nous prions, ça doit être la copie conforme de ce que nous sommes à l'intérieur. Sinon, nous sommes quoi? Des parias devant Dieu. Retirez-vous de moi. Car je ne vous connais pas. C'est, je crois, ce qu'il y a de plus grave comme phrase qu'on pourrait entendre venant de Jésus. Retirez-vous de moi parce que je ne te connais pas. C'est comme ça que c'est dit. Moi, j'ai toujours peur, vous savez, j'ai toujours peur que Jésus, un jour, me dise cette phrase. Ça m'amène tous les jours à me mettre devant lui. Et à dire, ben, aujourd'hui, je n'ai pas été bon dans cette chose. Ou dans cette autre chose, parce que nul n'est parfait, personne n'est parfait. Encore faut-il le reconnaître. Alors ma question, c'était qu'en est-il de nous ? Sommes-nous saints d'apparence ? Parce que l'intérieur, peut-être, il est comme les gens du monde extérieur. En Hébreu, chapitre 12, verset 14, il est dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, là c'est brut de pomme, hein, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Là le verdict est posé. Sans la sainteté dans notre vie, personne ne verra le Seigneur. Et je vais le développer, vous allez vite comprendre pourquoi. En fait, compte, c'est maintenant, puisqu'il ne peut y avoir aucun péché devant Dieu. Dieu ne tolère pas le péché, surtout dans sa présence. Le chrétien devra et sera sans péché lorsqu'ils verront le Seigneur. En 1 Jean, chapitre 3, versets 2 et 3, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. » Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. C'est une exhortation. On est appelé ce matin à se purifier. En fin de compte, le fait de prendre conscience que notre vie n'est pas pure, j'ai pas dit pas réglée, mais pas pur, qu'on a encore ces petits travers. Ça doit constituer une motivation à rechercher dès maintenant la sainteté ici-bas. C'est-à-dire fuir nos travers. Vous vous rappelez, je vous ai posé cette question, on met devant nous tout ce qui ne va pas encore dans notre vie. Et on doit essayer de régler ces choses le plus vite possible. La conception qu'on a de Dieu va dépendre de notre sainteté. Et vous allez vite comprendre. En Matthieu 5, 8, il est dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Heureux ceux qui ont le cœur pur. Vous allez vite comprendre. On va prendre Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Vous allez vite comprendre où je vais en venir. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors, « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point, rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, et ne se convertisse point et ne soit point guéri. » Je dis, « Jusqu'à quand, Seigneur ? » Et il répondit, « Jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans les maisons, et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et le pays devienne un immense désert. Et s'il y reste encore un dixième des habitants, ils reviendront pour être la proie des flammes, mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. C'est le résidu d'Israël dont il est question ici. En fin de compte, Isaïe ici n'est pas du tout au commencement de son ministère. Il avait déjà officié depuis un certain nombre d'années. Et ici, on voit, il est ravi en esprit et il voit directement, il entre directement dans la présence de Dieu. Et pour lui, c'est quelque chose d'effarant parce qu'il constate ô combien il est impur. Lui qui était prophète, il constate ô combien il était impur. Et il dit « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un être impur. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Il savait qu'il aurait pu mourir à ce moment-là, parce qu'il avait vu Dieu et qu'il était impur. Et qu'est-ce qui est arrivé? Un séraphin a pris un charbon avec une pincette et il a touché les lèvres d'Ésaïe. Ici, on est au cœur de nos propos de ce matin. C'est le fait de se sanctifier, se purifier. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est entrer dans la présence de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Aujourd'hui, le drame, en fin de compte, c'est qu'en réalité, comme le dit Ésaïe beaucoup plus tard, ce peuple m'honore de ses lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est ce que je vous ai dit ce matin. En fait, quand on vient, pourquoi? À l'église. Est-ce qu'on a cette soif de rencontrer Dieu? Parce que Dieu peut même se rencontrer ce matin. Malheureusement, et c'est là où je vous ai dit que j'en secouais peut-être certains, il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent absolument pas ce que ça veut dire entrer dans la présence de Dieu. Vous vous rappelez que je vous dis souvent, on peut en esprit voir le Seigneur. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un? Parce que on fait peut-être des prières, mais est-ce qu'on rentre vraiment en intimité avec Dieu? Est-ce qu'on a ce fameux tête-à-tête avec Dieu comme Moïse l'avait? Ce moment où on est honnête, où on est clair avec Dieu, où on dit, mais Seigneur, je recherche ta face, je veux cette intimité avec toi. Et lorsque l'œuvre de Jésus-Christ est accomplie en nous, c'est à ce moment-là qu'on rentre dans la présence de Dieu. C'est à ce moment-là qu'on touche spirituellement Dieu. Malheureusement, dans les églises, on entend souvent « oui, Dieu est présent, Dieu est parmi nous ». Malheureusement, c'est une illusion. Parce que si Dieu était véritablement au milieu de l'assemblée, ça se verrait. Ça s'entendrait. Parce que quand Dieu est présent au milieu de nous, les choses, il y a des choses qui se passent. Il y a des gens qui tombent à genoux. Il y a d'autres guérissent. D'autres ont leur vie transformée. Mais malheureusement, on vit au milieu d'un peuple impur, souvent agressé tous les jours par le monde, et il se laisse agresser par le monde. Vous verrez plus tard pourquoi. En fin de compte, l'adversaire veut corrompre et souiller le peuple de Dieu. Et il faut se méfier parce qu'on se laisse facilement avoir. On croit avoir une position. On se dit, oui, j'ai reçu Jésus-Christ parce que je l'ai reconnu comme mon Sauveur et mon Seigneur. Ta vie doit le montrer. Rappelez-vous la question que je vous ai posée au début de la prédication. Est-ce que ta vie montre que Jésus-Christ a transformé ta vie? C'est pour ça qu'on a besoin de revenir au Seigneur. On a besoin d'avoir cette vérité, de dire, en fin de compte, j'ai joué la comédie. Parce qu'en Joël 2,12, il est dit « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. » Est-ce qu'on en a un jour, on a pleuré devant Dieu ? Pour ce qu'on était, pour qui on était ? Est-ce qu'on l'a fait ? Peut-être qu'il y a tellement de religiosité en nous qu'on ne s'aperçoit même pas qu'en fait compte, on n'a jamais été vraiment près de Dieu, mais qu'on a vraiment été éloigné. On est tellement religieux qu'on ne s'en aperçoit même pas. Revenir à Dieu, en fin de compte, c'est prendre conscience, comme Ésaïe, de la sainteté de Dieu. Pas des gens premiers que je suis sale, mais c'est de reconnaître ô combien Dieu est saint. Si je, moi particulièrement, si on me met devant moi une magnifique chemise blanche, je vous avoue sincèrement que me connaissant, je vais avoir du mal à la porter. Parce que je sais que dans le quart d'heure qui suit, il y aura une magnifique tache dessus. Mais je suis simplement en train de vous expliquer ma prédication. C'est de dire au Seigneur, mais je ne peux pas prendre cette robe. Parce que ma vie n'est pas en conformité. Je vais salir cette robe. Elle va être tachée. Vous allez me dire, oui, mais il y a le sang de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Mais c'est simplement le fait de reconnaître que, ben non, je ne peux pas prendre cette robe. Parce que moi, dans le quart d'heure qui suit, je vais l'attacher. Vous savez, vous avez entendu que même les séraphins avaient les ailes sur les yeux parce qu'ils ne pouvaient pas regarder Dieu. Les séraphins qui étaient avec Dieu ne pouvaient pas regarder Dieu. Alors nous, comment pourrions-nous le faire ? Beaucoup vont me dire, oui, mais bon, il y a l'amour de Dieu. Oui, je dis amen à cela. Dieu est amour. Mais il ne faut jamais oublier que Dieu ne tolère pas le péché en sa présence. Et souvent, c'est là où les choses se compliquent. Parce qu'on s'aperçoit souvent, malheureusement, que l'œuvre de Christ n'est pas accomplie dans notre vie. Rien qu'avec ces petites choses. Christ s'est donné pour nous. Il nous a rachetés. Mais à quoi ça sert qu'il nous voit sans arrêt revenir devant le tribunal pour la même faute ? Il l'a payé une seule fois. Et c'est définitif. Il ne peut pas le refaire à nouveau. C'est pour ça qu'on a besoin de se purifier. On a besoin de se mettre dans la présence de Dieu et de lui dire, de lui donner ce qui ne va pas dans nos vies. Parce que Christ est mort une fois pour toutes. En Hébreux 12, il est dit qu'il ne peut pas être crucifié une deuxième fois. Même Job dit... L'homme avale l'iniquité comme de l'eau. C'est pour ça qu'on a besoin d'être purifié. C'est pour ça qu'on a besoin de ce charbon ardent qui purifie nos lèvres et nos cœurs. C'est quoi ce charbon ardent ? C'est la lumière de Christ, la présence de Christ dans nos vies. Celle qui est bâtie par des prières, par des méditations, par une intimité réelle avec Dieu. On n'a pas à bâtir notre foi sur des positions. Vous savez, du genre, voilà, l'enlèvement de l'Église. Il y a des églises qui se divisent rien qu'en parlant de ça. Je trouve ça affreux et complètement idiot. Vous avez des doctrines et vous avez surtout ce qui tue, c'est l'intellectualisme religieux. C'est ça qui tue. Les gens qui se mettent des livres plein la tête. Vous savez, et je vous le dis, et je vous l'ai dit, j'ai étudié l'eschatologie pendant 5 ans. pour présenter ça à l'église. J'ai mis plein de bouquins dans ma tête. Il y en a que je ne comprenais même pas, mais je les ai mis dans ma tête. Il n'y a qu'une chose que le Seigneur m'a laissée. Je vous l'ai déjà dit, veillez et priez. Ça sert à quoi de se mettre plein de bouquins dans la tête si on n'est pas sauvé, si on n'a pas Christ dans notre vie? Ça sert à rien. À rien du tout. Si on a Christ dans notre vie, c'est là où il va nous dire « Entre par ici, bon et fidèle serviteur ». Quand Dieu va nous regarder, la première chose qu'il verra, Jésus-Christ. C'est ça l'intérêt. Et c'est pour ça qu'on a besoin de se purifier. Qu'est-ce que j'ai fait avec ce que j'ai reçu? Vous savez, ce fameux talent, qu'est-ce que j'en ai fait? Est-ce que je me suis assis pour l'admirer? Ou est-ce que je me suis levé pour combattre? Combien il y a de chrétiens qui sont assis dans les églises? En fin de compte, ceux qui sont, ils se sont assis se sont fait submerger par les choses du monde. Ils se sont laissés envahir par le système mis en place par le malin. Je vous l'ai dit, je ne sais pas combien de fois, et c'est quelque chose pour moi qui est très parlant. Lorsque le peuple s'est trouvé devant la mer Rouge, Moïse est allé se mettre devant l'Éternel, l'Éternel a dit une seule chose, il a dit qu'ils avancent. Si à cet instant précis, le peuple n'avait pas bougé, s'était assis, qu'est-ce qui serait arrivé? Ils seraient morts. L'armée égyptienne leur serait tombée dessus, ils auraient tous été tués. Ils ont vu juste, et je suis très comique, quand je dis ça, ils ont juste fait le pas de foi. Ils ont avancé. Vous imaginez, ils ont fait juste ça, et au moment où ils ont posé le pied, la mer s'est ouverte en deux. Dieu attend cela de chacun d'entre nous ce matin. Ce pas de foi. Un chrétien qui marche, c'est un chrétien qui ne se perd pas. On a besoin d'être purifié des mondanités. On a besoin d'être purifié de tout ce qui remplit nos vies. Cette fameuse cuirasse qui avait été demandée de porter David et qu'en fin de compte, il ne savait plus bouger. Combien de chrétiens ne savent plus bouger parce qu'ils sont remplis et couverts de choses qui n'ont rien à voir avec les choses de Dieu? Pour battre Goliath, David a dit « Je serai mieux sans ça ». Est-ce qu'on a déjà dit ça dans nos vies? « Je serai mieux sans ça ». En Lévitique 19,2, il est dit « Soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu ». Est-ce qu'on peut déclarer ça ce matin? « Je suis saint ». Moi, je n'ai pas répondu à cette question. Parce que je sais que je ne suis pas saint. Je vous le dis devant vous. La sainteté de Dieu constitue pour nous un impératif incontournable de notre comportement moral. Vous devez être saint parce que moi, le Seigneur, votre Dieu, je le suis. Soyez comme moi, je suis. En gros, ça veut dire ça. C'est lourd de conséquences, et en fin de compte, c'est la vocation de chacun d'entre nous ce matin. C'est la mission de l'Église, l'appel à la sainteté. Ce qu'on déclare correspond à notre vie, et l'inverse aussi, notre vie correspond à ce qu'on déclare. L'un comme l'autre sont unis, elles sont unies en Jésus-Christ. On a besoin que Christ agit dans notre vie comme Dieu a agi pour le prophète. Si on veut se tenir dans la présence de Dieu, il n'y a pas d'autre solution que se sanctifier, se purifier. Et souvent les gens disent « Oui, mais bon, en Jésus-Christ, je suis purifié par son sang. » Si on s'éloigne de la lumière, qu'est-ce qui nous arrive? on est dans le noir et on risque de chuter. Et la plupart du temps, on chute. Si je ne reste pas dans la présence de Jésus-Christ, je ne suis certainement pas pur. Automatiquement, le malin vient, parce que c'est ce qu'il veut faire, emmener, s'il était possible, les élus. Si on venait dans la présence de Dieu, on aurait conscience, une conscience réelle de l'impureté qui s'est attachée à notre vie. Un peu comme Ésaïe qui a pris conscience qu'il était impur. On prend conscience que ce qui n'est pas important à nos yeux, l'est aux yeux de Dieu. Même les petites choses pour Dieu sont importantes. Ce petit péché, oh, c'est juste un petit péché. C'est ça qui détruit toute une vie, un petit péché. Vous savez, ce petit trou, ça devient énorme. Comme dit Alain, cette petite tache sur une pomme dans un cajou, une toute petite tache, une semaine après vous jetez le cajou. Ben c'est ça que ça fait dans nos vies. Beaucoup, malheureusement, aujourd'hui, dans les églises, et je l'entends parfois, disent que, ben voilà, ils ont l'Esprit de Dieu. Mais malheureusement, il y en a beaucoup qui ne savent pas que ça fait longtemps que l'Esprit de Dieu est parti. Parce qu'ils oublient une chose, c'est que l'Esprit, quand il s'en va, il ne fait pas de bruit. Il ne claque pas la porte et il nous laisse tout simplement dans notre péché. Parce qu'il ne veut surtout pas être mêlé à notre péché. Donc il part tout doucement. Et vous avez des marionnettes sans vie. Si on veut que la gloire de Dieu soit dans notre vie, il faut se soumettre aux exigences de Dieu, obéir à Dieu tous les jours. Est-ce qu'on veut ce matin adapter nos exigences, je vais dire personnelles, ou est-ce qu'on veut adapter, je vais dire suivre les exigences de Dieu? Parce que d'un côté, ça sera la mort, et de l'autre côté, la vie éternelle. La conclusion, vous voyez, je pensais vraiment être plus long. J'ai ressorti un verset de Jacques qui nous dit exactement ce qu'on doit faire. Vous voyez, je vous ai toujours dit, dans la Bible, il y a toujours la solution. En Jacques chapitre 4, verset 8, il est écrit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs homme irrésolu, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Ce verset dit simplement « Prenez conscience réellement de qui vous êtes devant Dieu. » Voilà ce que dit ce verset. En fin de compte, le besoin de purification est clair dans la tête de Jacques. Il s'adresse à des pécheurs, hommes irrésolus, c'est-à-dire qu'ils sont inconstants dans leur façon de vivre. La reconnaissance de l'immense besoin de purification ne doit pas laisser la place à la joie. C'est-à-dire qu'en tant qu'on ne se sent pas pur devant Dieu, on ne doit pas être joyeux. D'ailleurs, quand on dit « réjouissez-vous dans le Seigneur », ce n'est pas « réjouissez-vous avec le Seigneur », c'est « dans le Seigneur ». Un jour, je ferai certainement une prédication sur le fait d'être en Christ. Les gens disent souvent « on est en Christ ». Si vous saviez réellement ce que ça veut dire être en Christ, vous tombez à genoux à l'instant précis. On ne devrait plus être joyeux lorsqu'on sait qu'on n'est plus pas saint devant l'Éternel. Le conseil de Jacques, sentez votre misère, il dit en fin de compte, soyez affligés. Soyez dans le deuil et dans les larmes, changez la gaieté en deuil et la joie en tristesse. Vos regards doivent être abattus. Il y a des gens qui sont joyeux et qui vont à la mort. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réellement réglé leur vie devant Dieu. Et ils vont à la mort, ils continuent à pécher. Et ils disent, mais oui, mais il y a le sang de Jésus-Christ. Christ est mort, j'ai pris mon baptême, je suis sauvé. C'est faux. C'est faux. Pourquoi ? Parce que ta vie doit montrer que tu appartiens à Christ. Le manque de pardon, la première chose, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Rien que cette chose t'emmène en enfer. Parce que Jésus va te dire, écoute, j'ai accepté la mort alors qu'il m'aurait suffi de claquer des doigts et l'armée de l'Éternel aurait descendu sur tous les Juifs qui étaient en bas de la croix et ils seraient morts. Je leur ai pardonné. Vous vous rappelez ce qu'il a dit ? Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors nous, petits humains, si on ne pardonne pas aujourd'hui, on s'en va directement en enfer. Je suis désolé de vous le dire. Et ça montre une chose, c'est que l'œuvre de Jésus-Christ n'est pas faite dans nos vies. Et le pardon pour Dieu, c'est ce qu'il y a de plus terrible lorsqu'il n'est pas accepté ou donné. C'est ce qu'il y a de plus terrible dans la vie du chrétien. Dieu attend de nous un esprit de contrition, un esprit de confession. Vous vous rappelez, je vous ai dit tout, au début de la prédication, mettez-vous devant et pensez à ce que vous êtes réellement dans le quotidien. Mais moi, je vous l'invite ce matin à le faire devant Dieu. Sincèrement, faites-le devant Dieu. Dieu est prêt à tout entendre. Je vous rappelle quand même qu'il a gracié des gens qui avaient tué. Il a gracié des gens qui avaient tué. Si vous lisez, je crois que c'est le couteau et le poignard, c'est ça ? C'est la croix et le poignard. Là, un gars qui avait tué, il est devenu un homme de Dieu. Parce qu'il s'est mis devant l'Éternel. Alors ce matin, le conseil que je vous donne, c'est approchez-vous de Dieu. Afin d'être purifié, afin d'être sanctifié par lui et pas par les hommes. Parce que sans cette sainteté, sans cette purification, comme il le dit le verset, nul ne verra le Seigneur. Amen. C'est vrai, Seigneur, que ces mots semblent graves. Cette prédication semble dure. Moi-même, quand j'ai écrit cette prédication, j'ai ressenti que c'était dur. Mais même moi, ça m'a forcé à réfléchir sur moi. Et Seigneur, quand on pense à qui tu es, la parole nous parle souvent de toi et de ceux qui ont essayé d'entrer dans ta présence comme une lumière pure, brillante, intense. Et Seigneur, le filtre en est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous permet d'entrer dans ta lumière et de te voir. Seigneur, que ton esprit nous saisisse ce matin. Et fasse qu'on puisse considérer réellement tel que nous sommes devant toi. Les miracles, ce n'est pas nous qui pouvons le faire. Mais c'est toi qui fais ce miracle. d'un changement de vie radical. Seigneur, tu es celui qui peut tout en tous, mais tu demandes simplement de revenir à toi, de se mettre devant toi, chercher ta face, méditer, afin que notre vie soit purifiée. Seigneur, Christ est mort une seule fois. Il ne va pas mourir à nouveau et à nouveau et à nouveau pour chacun de nos péchés. Mais il est mort une seule fois. Et aujourd'hui, Seigneur, tu attends de nous ce cœur contrit, cette confession devant toi qui nous libère au lieu de nous attacher. Beaucoup ne comprennent pas qu'il y a une liberté en Jésus-Christ et elle est là, cette liberté. Seigneur, glorifie ton nom en chacun d'entre nous. Amen.